Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un plaisir, un bonheur que de vous retrouver avec Quentin Thomas et notre invité du mois, Monsieur Noé Dussen. Comment ça va?
Très bien, merci de l'invitation.
Bah écoute, ça me fait super plaisir de te recevoir ici dans notre maison du Clubhouse. On va parler de toute une série de sujets dont toi, évidemment, ta carrière, c'est super intéressant. Ancien capitaine du Standard de Liège quand même, ancien joueur de Crotone en Serie A, passé par Lausanne, Moucron. Capitaine, joueur important. Évidemment, on va dire Moucron.
Enfin,
on va pas oublier
placer,
Moucron. Hein. Était obligé de le placer. Grand fan de Moucron devant l'Éternel. C'est pour faire un peu plaisir à Thomas aussi,
ouais,
que je t'ai invité. Voilà, faut dire la vérité.
Un grand fan.
Et puis évidemment, aujourd'hui, joueur du côté de d'OHL, après des passages notamment à Gand, t'as une carrière hyper, hyper grande. T'as fait plein de trucs. Mais t'es dans quel état d'esprit en ce moment?
Je suis dans la continuité. J'ai encore envie de continuer à grandir, à prendre du plaisir sur le terrain, à m'amuser, à rendre fier la famille. J'ai deux petits, ma femme. Je suis épanoui, je suis bien, et c'est pour ça que je suis rentré en Belgique.
Ouais, tranquille quoi. Posé. J'ai l'impression que t'es apaisé, comme si t'étais déjà en train de travailler sur l'après, comme si tu t'avais vécu ce que t'avais à vivre à un moment donné, et maintenant c'était une transition logique vers peut-être autre chose dans ta vie.
Mais j'ai tout donné dans le foot, donc ça veut dire que je pense que j'étais peut-être au maximum. Mes meilleures années sont maintenant encore, peut-être je suis encore très bien maintenant, on verra dans l'année prochaine et l'année d'après. Mais j'ai tout donné, j'ai tiré le maximum de moi-même. J'aurais peut-être pu aller plus haut, tu sais pas. J'aurais peut-être pu aller plus bas aussi. Mm-hmm. Ça, c'est la vérité. Mais j'ai tout le temps été à 100%, tout le temps me donner au maximum. Et maintenant, ouais, j'ai que du plaisir, que du bonheur sur le terrain. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. J'étais en Suisse, je me suis épanoui. J'ai goûté à la Conference League. Et puis, j'ai une offre de Louvain. Il fallait réfléchir à cette offre. Et avec ma famille, on a pris la meilleure offre pour la meilleure possibilité. Je veux dire, le meilleur choix, c'était de revenir. Pour aussi les enfants à l'école en Belgique, pour qu'ils voient leurs cousins, leurs grands-parents. C'est plus une carrière que le joueur. Maintenant, c'est la famille qui est le plus important dans tout ça.
Tu sais, je dois t'avouer que j'étais étonné de te revoir en JPL parce que toi et moi, on s'était parlé, tu étais venu faire une interview du côté de Sky Sport en Suisse, etc., quand tu étais à Lausanne. Je te sentais mais hyper épanoui. Tu me disais justement que tu étais hyper heureux de faire des balades au niveau du lac et tout. Je te sentais en tout cas hyper apaisé. Et c'est vrai que le fait que tu aies fait ce choix de revenir, ça m'a paru sur le moment un peu étonnant et peut-être même un peu discordant par rapport au discours que tu me tenais à ce moment-là du côté de Lausanne. Est-ce que c'est quelque chose que tu as dû faire à contre-cœur ou est-ce que c'est vraiment à un moment donné un déclic qui s'est passé en disant je change d'état d'esprit et finalement maintenant la Belgique j'ai envie de la retrouver?
Non, en fait, on était très bien à Lausanne pendant les deux premières années, c'était magnifique. Encore maintenant, j'ai que des bons souvenirs. Si quelqu'un doit me demander des conseils, il va me le demander. J'avais eu un joueur qui m'avait téléphoné du RWDM, peut-être pour faire un transfert. J'avais dit que des points positifs. Mais après, j'ai eu mon deuxième enfant qui est arrivé à Lausanne. C'est pour ça qu'on était parti en Suisse aussi, parce que ma femme était enceinte à ce moment-là. On aurait pu aller dans les pays plus lointains, mais on avait eu un problème avec l'accouchement du premier, donc c'était un peu compliqué. Et donc, on s'était renseigné, les hôpitaux en Suisse, c'était super pour ça. Donc, on était parti en Suisse aussi pour ça. Je ne vais pas me cacher. Au début, le championnat suisse, c'était pas ce qui m'a attiré le plus. Pour finir, on a retrouvé notre bonheur là-bas. J'étais épanoui, la ville, la qualité de vie était exceptionnelle, mais exceptionnelle. Mais voilà, ma femme était toute seule à la maison, souvent avec les deux enfants, moi souvent parti, avec le football, et sa famille manquait à ma femme, les enfants, leurs cousins, « Ah papa, on rentre quand voir Nono, Nana, on va quand voir les grands-parents ?» Et tout ça a joué, et puis j'ai eu une offre de Louvain qui me donnait 3 ans de contrat, moi il me restait plus qu'un an de contrat à Lausanne. Les discussions avec Lausanne étaient un peu compliquées pour me prolonger. Et donc, on construisait aussi notre maison en Belgique. Donc, moi, dans ma tête, je savais déjà que j'allais être quelques années en Suisse, mais que le futur était en Belgique. Et donc, toute la planète était alignée. Donc, je suis rentré. Donc, c'était fait très facile en une semaine. Et puis, tu m'as appelé juste avant ce match du Kazakhstan pour dire « Ah Noé, tu rentres en Belgique ?» Et donc, tu le savais déjà que voilà, c'était mon dernier match pour la Conference League. On s'est qualifié pour la Conference League. Mais voilà, dans ma tête, je savais que je rentrais. C'est comme ça.
Et tu m'as dit, David Hubert, c'est lui qui a pris contact avec toi en DM par message privé. C'est un truc de fou, ça. Ça y est, maintenant, c'est comme ça. On recrute via Insta, quoi. C'est du dating.
Recruter, mais
quoi.
Je pense qu'il a voulu. Il a voulu. Une petite prise de contact. Il a voulu demander comment ça se passait, tout ça, si tu étais ouvert. Et donc, j'ai dit oui, que j'étais ouvert. Et je pense qu'il suit aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Maintenant, comme on dit dans le monde actuel, les réseaux sociaux sont super importants. Même si je ne suis pas un grand fan des réseaux sociaux, parfois, je publie des choses. Quand on me repartage, quand on me demande de partager quelque chose, je publie. Et vu peut-être grâce à mes performances que je faisais en Suisse à ce moment-là, il a vu que j'avais été élu deux fois meilleur défenseur de Suisse deux années d'affilée. Donc, il avait besoin d'un défenseur central, un Belge qui connaissait, il connaissait mon tempérament, il sait de quoi je suis capable. Donc, pour lui, c'était facile.
Quentin, quand je te dis Noé Duchesne, tu penses à quoi?
Ah, je pense à ce capitaine du Standard, hein, les goals, c'était la fougue, c'est ce qu'on avait besoin, je trouve, au Standard. C'est ce qui manque un peu, je l'ai encore dit la semaine dernière, cet ADN, cette combativité, mouiller le maillot. Et justement, moi j'avais une petite question, vu que tu as eu quand même des piges au Standard pendant plusieurs années, quand tu es revenu en Jupiler Pro League, maintenant que tu as rejoint en Jupiler Pro League, est-ce que pour toi le niveau du championnat, il était meilleur quand tu étais au Standard ou il est meilleur maintenant?
C'est difficile à dire parce que quand tu es au Standard, tu es tout le temps vraiment l'équipe favorite, tu dois tout le temps gagner. Maintenant, à Louvain, on n'est pas l'équipe favorite qui doit tout le temps gagner tous les matchs. Au Standard, tu as tout le temps une grosse pression. Ça veut dire que match à domicile, quoi qu'il arrive, que ce soit Bruges, Anderlecht, maintenant l'Union qui sont premiers, tu dois les gagner parce que tu as le public qui est là, tu dois tout donner. Mais ouais, avant, quand tu allais jouer à Anderlecht, c'était chaud, hein. Tu savais que là-bas, il fallait serrer les coudes, ça allait être dur. Maintenant, oui, nous, on a perdu semaine passée à Anderlecht, mais ils sont venus deux fois à la maison, on avait fait un match nul, on a gagné deux fois au Standard. Tu sens que les équipes, tout le monde peut battre tout le
C'est
monde.
ça, c'est
C'est
très
ça que
homogène.
c'est, ouais. C'est ça qu'il y a. Il y a pas vraiment, oui, je pense que quand même l'Union tire, Bruges tire vraiment vers le haut. C'est les deux grosses équipes du championnat. Le reste, tu sais que tu peux les battre à tout moment.
Ouais, ça c'est vrai. C'est vraiment la particularité, bon, on l'a déjà souligné ici dans le championnat, c'est que tout le monde peut battre tout le monde. Et au niveau des, par exemple, des supporters du Standard, le fait de jouer au Standard, il y a beaucoup de joueurs qui ont dit que c'était une pression qui peut te tirer vers le haut, qui te tirait vers le bas. Quel est ton ressenti à ce niveau-là?
En fait, j'ai toujours eu, moi, j'ai eu un bon rapport avec les supporters parce que les supporters du Standard, ils veulent quoi? Quelqu'un qui se la donne, quelqu'un qui a pas peur, quelqu'un qui va à 100% dans les duels. Et ben, voilà, je suis pas le meilleur fin techniquement, mais sur ces trois choses-là, j'y vais à fond tout le temps. Donc moi, ils m'ont tout le temps donné un grand respect. Moi, j'ai tout le temps donné un grand respect aux supporters aussi parce que ben, c'est magnifique. Tu joues dans la ville, tout le monde t'aime bien. J'étais vraiment adoré au Standard. Et puis quand je rentre là, ben, je reçois tout le temps des messages. Et quand les gens me voient aux abords du stade, bah, tout le monde me salue, tout le monde est content de me voir. Donc, non, ça veut dire que j'ai laissé une bonne image, une bonne trace de moi à Liège.
Top.
Tu gardes un regret quand même au Standard, il y a des choses que tu aurais aimé faire ou des choses que qui auraient pu mieux se passer pour toi, qui t'auraient peut-être donné encore un statut différent. On sait qu'au Standard, souvent, il y a des moments clutch comme ça qui peuvent arriver, qui font en sorte qu'on a quand même encore une autre considération, on est encore dans un autre niveau dans les yeux des supporters et dans le cœur des supporters.
Bon, moi, c'est mon départ. Parce que je pense que personne ne s'attendait à mon départ. J'avais signé 4 ans, et sur ma dernière année, je suis capitaine, je fais ma meilleure saison. On me dit en janvier, ouais, Noé, tu ne seras pas prolongé. Donc là, c'était un coup. Tu te dis, ouais, pourquoi? Je dis, je donne tout pour le club, je suis capitaine, je suis un des meilleurs sur le terrain. Chaque week-end, je me donne à 100%, je fais tout pour le club, et je ne suis pas récompensé de mes efforts. Donc j'avais une déception à ce moment-là. Mais après, voilà, à chaque déception, il y a une autre porte qui s'ouvre, et je suis parti en Suisse, et je me suis régalé en Suisse, j'ai vraiment adoré mon aventure là-bas. J'aurais pu rester au Standard, mais qui sait, ça tombe, j'aurais fait la saison de trop, ça serait mal passé, j'aurais eu une embrouille avec quelqu'un, tu comprends? Là, je suis parti en bon terme avec tout le monde, j'ai tout donné. C'est ce qu'on a beaucoup discuté avec ma femme, vous avez dit ça, elle m'a dit, Noé, t'as tout donné, t'as rien à te reprocher, pourquoi tu vas encore être dans le conflit, pourquoi conflit avec la direction, avec le club, le coach? Bah non, entre guillemets, j'ai tout donné, j'ai rien à reprocher, si vous prenez la décision, bah, c'est que c'est la bonne pour vous. Mais après, je le comprends aussi, j'avais 31 ans quand je suis parti. Il y avait Nathan Ngoy qui poussait derrière, il y avait Loubi qui était poussé derrière. Donc il fallait aussi laisser la place pour les jeunes, pour essayer de la revendre, parce qu'on savait que le Standard avait des problèmes financiers à ce moment-là.
Vous avez déjà joué en
Et
plus à ça ensemble, je pense, Nathan Ngoy
ouais,
et
j'avais
toi.
joué, ouais,
Tu sentais déjà le
j'avais joué comme ça.
potentiel d'international belge en lui ou il était encore un peu trop timoré à ce moment-là?
Non, tu sentais qu'il avait quelque chose, il était très vif sur les premiers appuis, très hargneux dans le duel, sa relance était bonne. Le seul problème qu'il avait à ce moment-là, c'est qu'il se blessait souvent, c'est peut-être son hygiène de vie, ou peut-être qu'il n'était pas encore prêt à ce moment-là pour le haut niveau. Mais maintenant, on voit depuis cette saison, c'est magnifique. À Lille, il fait une grosse saison et il continue à monter, donc ça, c'est super, il s'arrête pas, il continue à bosser, bosser, il monte. Et maintenant,
Tu
avec la
t'attendais à ça?
sélection, c'est difficile parce que notamment il y avait Amine Aldakine aussi qui était à peu près du même niveau que lui, qui est Amine Aldakine qui était parti récemment à Saint-Tron, ils
Qui
ont
est
fait
parti plus vite en
ouais
plus, hein?
à Saint-Tron et puis qui faisait bien en Allemagne. Maintenant c'est un petit peu plus compliqué, mais Nathan, oui, il avait quelque chose, il avait aussi cette hargne, cette envie tout le temps de tout donner, tu vois, il avait la dalle, quoi.
J'avais envie de te demander quel est le joueur avec lequel tu as pratiqué, qui t'a le plus impressionné durant ta carrière. Parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des joueurs comme toi, parce que parfois ces joueurs-là sont témoins d'une époque et tu vois énormément de joueurs passer contre qui tu as joué ou avec lequel tu as joué, que ce soit à l'entraînement ou en match. Donc tu vois aussi l'évolution, un, des individus qui aujourd'hui parfois peuvent devenir des stars, mmh. ou d'autres, tu parlais tout à l'heure, du niveau général des joueurs. Quoi.
C'est difficile à dire parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Par exemple, Nicolas Raskin qui avait cette envie, tout le temps bien faire, tout le temps demander des vidéos des coachs, regarder ce qu'il fait, tout le temps ses défauts, tu vois, il corrige tout le temps ses défauts. Ben maintenant qu'il est au Rangers, c'est que j'espère qu'il va faire une grosse Coupe du Monde et ainsi, j'espère pour lui, un bon transfert. Mais j'ai un autre qui me vient en tête très vite. C'est un mec qui fait tout facilement, c'est Alvin Sanchez. C'est un qui était à Lausanne avec moi.
Qui s'est fait deux
fois les croisés. C'est pour ça que maintenant il se retrouve. Enfin, il a signé au Young Boys, qui est la meilleure équipe de Suisse. Mais en janvier, avant qu'il se fasse les croisés, il a Benfica, il a Chelsea, il a Tottenham sur lui. Et le mec, il fait tout, mais d'une simplicité. Il a 22 ans. Le problème qu'il a eu, c'est au début, ça fait 4 ans qu'il est en professionnel, je pense. Au début, il était inconstant. Puis avec nous, il a fait une super saison, 12 buts. Il s'est fait les ligaments croisés. Et maintenant, il revient au Young Boys. Mais c'est le meilleur buteur de l'équipe. Et c'est vraiment un super joueur, 22 ans. Et en fait, tout ce qu'il fait, il le fait avec une facilité déconcertante. C'est un numéro 10 mmh. qui s'est joué sur le flanc, très fort en 1 contre 1. Je vais te dire lui parce que c'est le présent, mais tu verras dans le futur, je pense qu'on en reparlera. Ça va être le numéro 1 en équipe suisse de la nationale suisse. Mais tout ce qu'il fait, il le fait avec une qualité vraiment déconcertante. Une facilité, en fait. Il frappe au but, plein lucarne, pied gauche, pied droit. Ah, désolé, tu vois. C'est gentil, facile, sans prise de tête. Pour moi, c'est lui.
Ben voilà, vous l'avez retenu. Donc, Alvin Sanchez, allez taper sur Internet si vous ne le connaissez pas.
D'ailleurs, petite anecdote, il y avait le CEO de Bruges qui m'avait appelé pour lui à cette époque.
Ouais. Oui, tout à fait. Bruges était dessus, effectivement. J'ai fait une petite interview avec Alvin Sanchez. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Voilà. Mais à voir aussi quelle sera véritablement sa marge de progression après sa blessure. On a vu parfois dans l'histoire que c'était assez compliqué, notamment Zinho van Eusden, qui ne s'était jamais remis effectivement de ses blessures. Comment est-ce qu'un joueur très technique sur des premiers appuis, parfois très explosif, où il faut vraiment avoir les tendons et les assises musculaires extrêmement tendues, comment est-ce qu'on gère ça, tu vois? Mais ça reste quand même un joueur, effectivement, au potentiel incroyable. On va jouer avec Thomas à présent, l'happening. Allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas nous proposer? On se régale de quoi, là?
Bien évidemment, c'est toujours en lien avec notre invité, donc en l'occurrence, Noé Dussen. Donc, je vais expliquer les règles. C'est très simple. Comme la semaine dernière, vous répondez juste vrai ou faux, sans argumentation. Et ensuite, c'est Noé qui va donner la vraie réponse à ma question.
D'accord, vrai ou faux, sans argumentation.
Hein. Exactement.
Noé est donc le président de cette émission.
Voilà, tu commences, tu dis vrai ou faux, et ensuite c'est pour toi. Alors, Noé Dussen a joué avec Jérémy Perbet. Vrai ou faux?
Oui.
Vrai.
Ouais, c'est vrai.
Et c'était à?
C'était à Mons.
Ouais.
En effet. Ouais. Noé Dussen a joué avec Hans Cornelis.
Non.
Faux.
C'est vrai?
Ah ouais?
Serre de Bruges, ouais.
En effet.
DJ Kitmont, c'était mon capitaine à ce moment-là.
Voilà, j'avais dit qu'il allait peut-être t'appeler à Charleroi, mais il est viré. Voilà, il n'est plus là maintenant, c'est terminé.
Alors, Noé Dussen a joué avec Mbailey.
Oui.
Oui.
Vrai, oui.
Et c'était à
Moucron.
En effet. Noé Dussen a joué avec Leonardo Bonucci.
Ouf. À Crotone, je ne pense pas qu'il a joué avec Bonucci.
Vrai ou faux?
Non, je ne l'ai pas.
Faux?
Ouais.
Ouais, faux.
Je pense qu'il a joué contre Bonucci, mais il n'a pas joué avec.
Ouais.
En effet, son dernier match avec Crotone, c'était face à l'AC Milan.
Ah, pas mal. Ouais. Et tu as eu l'occasion, c'est intéressant ça. Donc du coup, tu as eu l'occasion de jouer avec contre des top stars. Est-ce que tu vois la différence de niveau à ce moment-là qui vraiment se voit directement à l'œil nu en disant mais ça c'est vraiment un défenseur de top niveau là-dessus sur les premiers appels sur ces accélérations on sent qu'il y a un type de niveau différent on hausse la barre comme diraient les Italiens une salto di qualità tu vois.
Il y a deux matchs, c'est les deux matchs que j'ai fait, c'est contre Rome à domicile et là le meilleur joueur, ça va être bizarre à dire, qui était à Rome, c'était Nainggolan. Pourtant Salah était là, il y avait Dzeko. Mais Nainggolan, à ce moment-là, c'était là. C'était vraiment incroyable. Et puis, il y a le match à Naples que tu joues avec la musique de Diego Maradona, tu vois.
Ouais.
À l'échauffement, c'était vraiment un sentiment bizarre. Tu te disais, j'ai l'impression que c'est un match de Coupe du Monde. Alors, rien à voir, tu vois, c'est un match de championnat. Et tu avais Dries Mertens, Hamsik. C'était vraiment c'était costaud. En fait, techniquement, c'est contrôle pas, ça rate rien. Quoi.
Mm-hmm.
Tout est beau, tout est fluide. Et à ce moment-là, contre Naples, on perd 4-0, je pense. Ouais.
tu dis, bon, voilà, moi, je suis parti du côté du Vésuve, j'ai vu le Vésuve, c'était beau, magnifique. Ouais. Non, en plus, il faut dire que Crotone, c'est une belle région, c'est le sud de l'Italie, je pense. T'es au niveau de tout près de Bari, etc. Là,
c'est en Calabre.
C'est la Calabre.
Donc, belle région, l'été. Mais après l'été, Là, il faut s'accrocher parce qu'il n'y a pas grand-chose.
Hein. Ah oui, il n'y a rien à faire.
Non, c'est un peu le désert.
La campagne paysanne.
Ouais, exact.
Voilà. Heureusement que tu avais des jeux vidéo peut-être pour t'occuper.
Ouais,
c'est sympa. Voilà,
ouais.
Thomas, on continue l'happening.
On continue en effet. Alors, Noé Dussen a joué avec Roman Yaremchuk.
Ouais. Vrai.
Yaremchuk. Ouais, à la Gantoise.
Ouais, exact. Ouais.
En effet. Il en reste deux. Noé Dussen a joué avec Maxime Lestienne.
Oui.
Aussi.
Moucron.
Non.
Non,
non.
Pas Moucron. Non. Au standard.
Ouais, ouais, au standard. Ouais, ouais.
En effet. Et le dernier, Noé Dussen a joué avec Xherdan Shaqiri.
Je pense pas, je pense que c'est faux.
Non, parce qu'il joue à balle.
Exact.
Et voilà.
Il a joué contre.
Voilà, match de contre.
Magnifique. Prenez vos petites pancartes, messieurs. On va passer au d'accord, pas d'accord à présent. Et on va parler justement d'un club dans lequel Noé Dussen a joué et a évolué. C'est évidemment le Standard de Liège. Quelle montée en puissance! Un jeu en progression et une mentalité qui n'a plus rien à voir avec le début de saison. Le Standard est désormais le favori à la victoire en Europe Playoff. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et ça va être difficile, Noé. Il est d'accord! Et voilà. Non, ça vient, ça fait plaisir. Ça va donner un petit peu de grain à moudre. Explique-moi, en quoi t'es d'accord avec cette phrase? Comme ça, tu vas te débattre avec les copains, là.
Le Standard, ça reste le Standard. Tu sais bien que ça peut être chaud à un moment donné. Mais on a joué Genk. À Genk, on a fait 0-0. J'ai pas senti la flamme de Genk. Tu sais, j'ai senti qu'une équipe assez tranquille, pas vouloir faire le jeu, assez monotone, rien de spécial. Tandis que le Standard, quand ils sont venus chez nous, c'est vrai qu'ils nous ont poussés. Ils ont gagné. Il y a des remplaçants qui sont rentrés comme Ayensa, qui a fait la différence. Il y a le petit jeune qui a marqué, qui est rentré, qui était très bon. Il m'a laissé une bonne impression. J'ai dit, punaise, je ne connaissais pas, mais il y va, il a l'envie, il a la grinta, il a la dalle.
Bernard Nguyené, tu parles?
Exact, ouais. Et je me dis, pourquoi pas, sur les derniers matchs qui restent. Genk, je dis, était un peu morose contre nous. Après, ils ont gagné ici à Westerlo. Tout est possible, je pense.
Ouais, il y a un match important, hein, celui de la semaine prochaine. Ce week-end, entre le KRC Genk et le Standard. Est-ce que c'est vraiment ce match-là qui va définir le vainqueur des Euro Playoffs, Quentin?
Définir, pas forcément, parce qu'il y a encore un match retour à Skressin. Et on sait que ça pourra vraiment jouer beaucoup. Il faut que le Standard aille faire minimum un match nul à Genk. Comme Noël l'a dit, ils ont réussi à le faire. Donc le Standard pourrait le faire aussi. C'est à leur avantage, c'est qu'ils vont refuser le jeu, ils vont jouer plus en contre-attaque, ils doivent jouer bloc bas, ils ne doivent pas jouer comme ils ont joué contre Westerlo à domicile bloc haut, parce que sinon là ils vont prendre cher en contre-attaque ou autre. Après, quand on regarde quand même l'effectif de Genk, pour moi ça reste l'effectif clairement le meilleur de ces playoffs 2. Quand tu as des joueurs comme encore l'encore ce week-end, du El Wadi, du Karetsas, du Heymans, il y a tellement de qualité, je trouve, que ça reste pour moi l'équipe qui reste la favorite de ces playoffs 2.
Mais je vais m'appuyer quand même sur ton expérience personnelle dans ces playoffs 2, Noé, parce que moi j'ai vu le match opposant OHL au Standard, je vous ai vu mener contre le Standard et puis être battu à la fin. J'ai quand même l'impression que ce Standard, il est quand même difficile à suivre quand on est son adversaire, capable du meilleur comme du pire dans la même rencontre. T'as l'impression qu'ils sont à deux tensions à un moment donné, et puis ils te proposent un football, papa, où ça va très très vite, c'est efficace d'un coup. Est-ce que parfois on a du mal à les suivre?
Ouais, mais devant t'as des mecs de qualité, ils vont très très vite, et donc tu sais, sur une action, une bête balle en profondeur, tu récupères un ballon au milieu de terrain, et le mari te ramène une balle au-dessus de la défense, et t'as l'attaquant qui court du 2000, il peut te le marquer. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent parfois à gagner des matchs, juste avec une indébilité qui fait la différence. Ouais.
Thomas.
Pour moi, c'est quand même beaucoup de chance ces dernières semaines, même si j'ai souligné la progression quand même assez intéressante du côté du Standard. Mais je trouve que le match face à Charleroi, je n'ai pas forcément vu beaucoup de progression. Je trouvais que c'était le match le plus mauvais du Standard de ces derniers 5-6 derniers matchs, on va dire.
Et paradoxalement, ils ont gagné.
Ouais, ils ont gagné, mais quand
alors
tu vois.
Ils ont perdu contre
mais quand
Westerlo.
Quand tu vois et quand t'analyses les buts, certes, c'est une frappe de loin, très bien placée, rien à redire. Le deuxième but, c'est quand même un peu de chance, hein, le ballon qui est dévié, le ballon se retrouve dans ses pieds, il n'a qu'à la mettre au fond des filets. Donc pour moi, sur ce match-là, j'ai pas été convaincu du tout. Donc actuellement, je dirais pas qu'ils sont favoris. Et de toute façon, c'est difficile à dire qu'ils peuvent être favoris parce qu'aujourd'hui, c'est Genk premier avec 2 points d'avance. Pour moi, le match de ce milieu de semaine sera beaucoup plus important que celui de ce week-end parce que si tu gagnes pas celui du milieu de semaine, tu perds potentiellement déjà des points face à Genk qui va peut-être gagner face à Charleroi. Donc pour moi, le milieu de semaine est quand même plus important déjà que le match ce week-end.
Alors on va un peu trop vite. Évidemment, oui, ça dépend évidemment quand est-ce que vous regardez cette émission.
Ouais.
D'ailleurs, n'hésitez pas
à
lâcher un like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bah, forcément, on aura peut-être une analyse différente selon peut-être eux, notre audience aussi aura un avis différent selon est-ce qu'ils vont regarder l'émission maintenant ou un peu plus tard. C'est toujours ça qui est compliqué. Assez inédit aussi de t'avoir alors qu'on sait que tu vas jouer ce soir. Mm-hmm. Ça fait toujours plaisir d'avoir comme ça un joueur. Est-ce qu'on est dans une énergie différente quand on joue en milieu de semaine et qu'on est dans les playoffs 2? Est-ce que tu prépares le match différemment que si c'est un match le week-end? Comment tu te mets mentalement en perspective, sachant que tu vas être titulaire cette fois si tu vas jouer?
Oui, là, ici, je vais pas dire que je prépare normalement comme ça venant à une émission, mais tu m'avais appelé, j'ai eu le mot de la direction qui m'avait dit oui, ok, tu peux y aller, donc je me prépare, après je rentre à la maison, je vais me reposer, je vais manger, et puis je repartirai, donc ouais, normalement je m'occupe un peu à la maison, je m'occupe un peu des enfants le matin, et puis je fais quand même, je mange, je me repose, et puis je démarre. Mm-hmm. Mais oui, le focus, il est déjà là, tu sais que t'as match. Hier, j'ai encore mangé ce que je mange depuis 14 ans avant les matchs. Donc,
ah, il y a un rituel. C'est quoi?
Ah, c'est pâte au pesto avec un peu de poulet sur le côté.
Ah, tu sais que c'est mon plat préféré, les pâtes au pesto. Ouais. Incroyable.
Donc ça fait, bon, tu vois, ça fait quand même 15 ans que je le mange, donc.
tu commences à en avoir marre.
Quand je le mange, il a plus le même goût qu'au début.
Ah, ben, bah, il faut changer le pesto. Ouais. Tu dois le faire à la maison et tout ça.
Ouais, on a essayé, mais j'aime mieux rester sur du basique.
Ah ouais, donc tu prends le pot, quoi. Tu le fais pas toi-même.
Fais le pot.
Ben, bah, on fera une pâte au pesto maison ensemble, alors, si tu veux. Une fois, ça fait toujours plaisir. Non, mais pour revenir sur cette rencontre entre Standard et Charleroi, est-ce qu'il y a eu de la progression côté Charleroi, Thomas Dinot? Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Non, Charleroi, oui, mais pas le Standard.
Non, mais du côté Standard, Quentin.
Ce qui est bien, je trouve, par rapport au play-off, et ça, j'aime bien ce que voir et Samet, c'est vraiment cette combativité jusqu'à la fin. Parce que c'est la première fois contre l'OHL qu'ils ont gagné en étant menés au score. C'est quelque chose qui n'arrivait pas sur les 30 matchs de la phase classique, même si c'est pas voir qui a fait les 30 matchs. Ici, ben, contre Charleroi, c'est pareil. Ils sont menés, puis ils reviennent dans un derby wallon et ils vont faire le 1-2. Donc, cette combativité jusqu'à la dernière seconde, c'est ce qu'on n'avait pas dans les derniers matchs. Donc ça, bravo à Evrard et bravo à l'équipe. Je pense qu'il a réussi à transcender les joueurs à ce niveau-là. Et c'est ce qu'il va falloir parce que la course à la vainqueur des playoffs 2, c'est un peu une course contre la montre. Donc si t'as pas ça, ben, tu pourras pas les gagner ces playoffs 2. Donc c'est une très bonne chose. Et je rejoins Thomas parce que ce soir, à domicile, contre l'Antwerp qui a gagné contre l'OHL ce week-end, mais bon, qui a eu difficile, je trouve, à 11 contre 9, à gagner à la maison. Ben, le Standard, on le sait qu'à la maison, les résultats, ils sont pas au top récemment. Donc ça va être un match très, très, très important pour eux.
Quelle est la plus grande qualité de Felice Matsu?
Humainement, c'est il comprend les joueurs. Donc il pense pas que au foot, il pense aussi le mental, c'est le plus important. Donc si le joueur est bien dans sa vie privée, si mentalement il est épanoui, sur le terrain il serait épanoui. Je pense que c'est son... Ouais. Humainement, c'est la classe.
En tout cas, il a énormément changé la perspective, même la mentalité du côté de Louvain depuis son arrivée. On a vraiment senti une équipe complètement différente, à tel point qu'effectivement, ce fameux sauvetage dans la dernière journée de la phase classique a été fêté comme une victoire en Ligue des Champions. Bah, tu connais, il est très exubérant. C'est notre Felice d'amour, on le sait. Mais on sent aussi qu'il amène peut-être ce qui a manqué à OHL, qui est un club très structuré, très hiérarchisé, avec King Power au-dessus. Donc, tu vois, parfois, ça manque un petit peu d'aspect humain et de chaleur. Il est venu apporter ça, tu vois.
Ouais, le coach, il donne beaucoup d'amour, c'est vrai. Il le dit, moi, je vous aime tous. Mais oui, c'est vrai, un peu plus côté humain et moins... OK, on travaille derrière son ordinateur, data, on fait ça, comme ça. Aujourd'hui, on court, on fait ça, autant de muscu. Il est un peu plus terre-à-terre, un peu plus à l'ancienne, je vais dire, aussi. Mais oui, c'est ce qu'il faut, tu vois, dans le foot, il y a des... Quand tu te lèves le matin, parfois les joueurs, ils ont une envie, ils ont quelque chose, parfois ça s'est mal passé, ils comprennent les joueurs, ils arrivent à leur parler. Comment il me voit tirer la tête, il vient me voir, il me dit « Ah, pourquoi tu me respectes ?» Et je dis « Ouais, j'ai peut-être mal dormi, mon petit est peut-être près de moi, ma femme, hier, elle m'ennuie un peu. » Tu vois, il comprend un peu les joueurs, il n'est pas tout le temps dans « Ah, lui, il s'est mal entraîné, il joue pas. » Tu sais, il sait bien qu'il faut gérer un groupe, gérer des êtres humains. Et je pense que ça, c'est le plus important. C'est ce qui fait de mieux. Et à Charleroi, quand on a réussi, je pense que c'est grâce à ça. Dans les autres clubs où il est passé, mais c'est plus des clubs qui ont une grosse structure et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et je pense que c'est pour ça que lui aussi, il l'a pas trop aimé dans ces clubs-là. Il a mieux des clubs où il arrive à vraiment à être lui-même, quoi.
Ouais, il a besoin d'enrober un peu les choses, quoi, pour apporter sa touche
personnelle.
Ouais, ouais. C'est ça, ouais. Ouais,
exactement.
C'est la célébration quand il a gagné à Charleroi. C'est incroyable, je trouve, de célébrer comme ça, sa petite danse et tout. C'est vraiment, tu vois, c'est l'être humain et qu'il est comme ça.
Ouais,
et il
exactement.
Pas.
Ouais, exactement. Ouais, c'est pour ça que dans les autres clubs, il a dit, moi, je travaille comme ça et j'ai pas envie de changer pour faire plaire à quelqu'un d'autre. Lui, il est comme ça et c'est sa philosophie, quoi.
Mais ça match aussi avec OHL et l'état du club à l'heure actuelle. Ils avaient surtout besoin de quelqu'un qui amène de la stabilité, de la quiétude. Il avait pas non plus, je parle de Georgi Sepregi, votre directeur sportif, un objectif pour aller chercher une Ligue des Champions ou une place européenne. Donc, cette année, le format d'entraîneur de Felice convenait très bien à l'ambition d'OHL. Si elle venait à changer, peut-être que Felice serait un peu moins à l'aise. Enfin, ça dépend de tout. On sait aussi les qualités de Felice quand il s'agit d'un grand club. Comment est-ce qu'il arrive à s'adapter ou pas? Mm-hmm. Voilà, ça aussi fait partie.
Quand il est arrivé dans une situation très compliquée, hein. On avait presque pas de points. On avait, je pense, 8 points sur 36, je pense, quelque chose comme ça. Donc, il est arrivé dans une situation très, très compliquée. Ensuite, on a surmonté la pente, mais on est parti de très loin au début. Hein. Faut pas l'oublier. Hein.
Ça t'a étonné que David Hubert aille à l'Union ou pas? Parce que c'est quand même très bizarre comme choix, alors que ça s'avère très positif aujourd'hui. Mm-hmm. Mais vu la situation de Louvain à ce moment-là, que le premier du classement aille chercher l'entraîneur d'un des derniers du classement, mm-hmm. je trouve ça quand même assez étonnant.
Écoute, ça m'a étonné, oui et non. Parce que j'ai vu David pendant, je pense, 3 semaines, 1 mois à l'entraînement et comment il donnait l'entraînement et comment c'était le style de l'entraîneur. Mm. Ça m'a pas du tout surpris. Ça veut dire qu'il a toutes les qualités. C'est un mec qui a des idées claires, son plan de jeu, il sait ce qu'il doit faire avant chaque match sur quel joueur attaquer ou attaquer les zones précises. Il a vraiment un plan clair. Il est vraiment quelqu'un d'intelligent et de très structuré. Et donc, c'est pas un entraînement juste pour dire dans l'entraînement. Aujourd'hui, on fait, 5 passes, on fait des centres, on fait des frappes et on fait un petit match et c'est fini, tu vois. Non, non, ces entraînements sont tout le temps très structurés. Il sait où il veut aller. Et quand l'Union l'a recruté, j'étais étonné, oui et non, parce que c'est un jeune entraîneur. Ouais, ouais. Mais bon, quand tu regardes maintenant, tout ce qu'il fait, il le fait très bien. Et comment tu dois. Après, le club, Louvain était un peu fâché sous son départ, mais lui, la semaine d'après, je vais contre Champions League en Inter de Milan.
Donc,
quand il est venu nous dire au revoir, je dis écoute, moi, ce sera 2 places pour l'Inter de Milan. Non, franchement, c'est bizarre de l'extérieur, mais quand tu vois de l'intérieur, quand tu vois sa façon de travailler, en fait, ça me surprend pas du tout.
Parce que moi, je trouvais ça hyper surprenant. Mm-hmm. J'étais pas fan du choix, mm-hmm. mais aujourd'hui encore, quand tu vois le match face au Club de Bruges, tu vois que c'est un entraîneur qui sait se réinventer, qui sait créer des nouvelles choses sur le terrain. Il sait repositionner les joueurs. Franchement, je suis agréablement surpris par son niveau.
On va y venir dans quelques instants, mais juste avant, on termine avec ce d'accord, pas d'accord. Vous pouvez reprendre les pancartes avec donc cette rencontre opposant le KV Mechelen au RSC Anderlecht. Confiance retrouvée, le Sporting a plus que jamais besoin d'un Bertaccini en forme pour performer en play-off. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? D'accord du côté de Quentin. T'as tourné quand même, c'est bon, t'es d'accord? Allez, on est d'accord du côté de Noé et d'accord du côté de Thomas.
Bah, l'inverse serait difficile. Enfin, je veux dire, t'as toujours besoin d'un top attaquant dans ton équipe. C'était un recrutement logique quand on en a parlé la saison dernière. C'était pour nous, c'était le meilleur joueur de la saison. Donc, c'était logique qu'il aille dans un grand club. C'était difficile pour lui. Mais tu vois que c'est un joueur comme tu le disais en off ou tout à l'heure, je sais plus exactement, tu vois que c'est un joueur qui a la mentalité exemplaire. Enfin, tu vois que c'est un joueur fait pour ce club. C'est juste que c'est difficile à l'associer avec les joueurs actuels dans le noyau parce que c'est un système aussi différent de ce qu'il a pu avoir à Saint-Trons. C'était dans un système 3-5-2, donc 2 attaquants. Là, il est tout seul. C'est différent, mais tu vois quand même que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Il a prouvé encore ce week-end. Et ce qui est très intéressant du côté d'Anderlecht ces dernières semaines, intéressant et pas intéressant, c'est un mix des deux, c'est que beaucoup de joueurs qui démarrent sur le banc arrivent à être décisifs et c'était pas le cas par le passé, donc pour le moment c'est ce qui est quand même remarquable du côté d'Anderlecht.
C'est quand même très paradoxal et ça dit beaucoup de la manière dont aussi Anderlecht a changé. Tu dis que c'est un joueur qui est fait pour le club. Bertaccini, c'est pas le profil, l'habitude de ce qu'Anderlecht a l'habitude de voir comme numéro 9. Comme mentalité aussi, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des charognards comme ça dans un rôle de numéro 9 qui viennent gratter des ballons. Tu vois rien que le but de la semaine dernière où le mec il va aller s'arracher pour aller récupérer le ballon. Tu vois la célébration, la manière d'être. Ça c'est un joueur du standard, tu vois ce que je veux dire, c'est la vérité. C'est pas un joueur d'Anderlecht. Mais Anderlecht a besoin de ça en ce moment.
Bien sûr, Anderlecht a besoin de ça. Et moi, j'en parlais tout à l'heure en off. Je pense que c'est ce duo avec Zvetkovic. On voit, c'est normalement de base des concurrents pour ce poste de numéro 9. Parce qu'il n'y a qu'un numéro 9. Ils montent tous les deux en même temps. Première touche de balle, Zvetkovic. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont se célébrer ensemble. Bertaccini, Marc, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont tous les deux directement, instinctivement. L'un se prend dans les bras carrément et tout. Donc, tu vois qu'ils ont cette complicité et tout. Un Anderlecht avec 2 buteurs, tu les mets les deux là, je pense que ça peut être tellement incroyable parce que ce Bertaccini qui a cette hagne et Zvetkovic qui sait très bien garder le ballon, je pense que ça doit être pour un défenseur très dur à réussir à lui prendre la balle de haut goal. En déviation, il peut jouer très bien, mais le problème, qu'est-ce que tu fais du joueur, un des joueurs les mieux payés d'Anderlecht, Thorgan Hazard, qui a ce statut aussi, parce que ça veut dire que tu dois le mettre soit à droite, soit à gauche, parce que si tu joues en 4-4-2 à plat, bah, il va mettre Saliba Lanzana, tu dois avoir des pistons et tu peux pas mettre un Thorgan Hazard avec un Saliba dans ce rôle de milieu central. Donc Taravel, c'est pour ça qu'aussi qu'il utilise en tant que joker. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est les premières mi-temps d'Anderlecht, parce que dans tous les matchs des playoffs, J'ai regardé la première mi-temps, c'était encore très très dur. Hein. Franchement, Malines a raté beaucoup beaucoup d'occasions. Il y avait le cas avant avec la Gantoise qui devait aussi mettre 3-0 à la mi-temps. Bruges qui avait mis justement ce 3-0 à la mi-temps. Donc j'ai peur pour Anderlecht, c'est que maintenant ils rentrent dans le match pas à la mi-temps, mais aussi on prend dès le début du match. Et ça pourrait vraiment faire la différence parce que Saint-Tron n'arrive vraiment pas et donc aller chercher cette troisième place.
Je vais poser une question à Noé. Est-ce que ça te fait peur de jouer Anderlecht aujourd'hui? Est-ce qu'Anderlecht fait peur quand vous préparez, vous sentez, vous avez une appréhension à jouer à Anderlecht? Vraiment?
Je sais pas, tu me poses la question, mais j'ai 34 ans, tu vois, je relative un peu, ça me fait peur de jouer à Anderlecht? Non. Ça me fait peur de jouer à Bruges? Non. J'ai envie de jouer à Anderlecht, oui. T'as envie de jouer contre Bruges, oui. Mais bon, là, comme on disait, si les remplaçants font la différence, je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait du staff, de Taravel, ça veut dire que tout le monde est concerné, les 18 qui sont là, 18-20 qui sont là, à tout moment, ils les mettent sur le même piédestal que leur titulaire, donc je pense que c'est important, c'est le groupe. Parfois, sur le long terme, les remplaçants font la différence. C'est ce qui est beau. Ça veut dire que s'il y en a un qui est pas bien pour X ou bonne raison, il sait bien que sur le banc, il y a deux, trois mecs qui veulent tout donner, qui font la différence. Et, bah, Anderlecht a fait ça cette semaine. J'ai regardé le match et c'était vraiment les deux qui sont rentrés. Ils ont fait la différence. C'est clair.
Après, quand
s'ils retournent le match, c'est grâce à eux.
Quand on a vu la première mi-temps de Sorikawa, je pense pas qu'il va rejouer d'ici tout en tant que titulaire parce que c'était vraiment catastrophique.
Ouais, à ce point-là.
Vraiment, c'est la place de Zvetkovic, du coup, ou Bertacini potentiellement à gauche. Après, ils jouent pas vraiment dans leur.
T'as dit Sorikawa, mais tu voulais dire.
Sorikawa,
je parle. Sorikawa d'Acosta.
Ah, Koba d'Acosta.
C'est dans son équipe.
Koba d'Acosta, sa première mi-temps était vraiment exécrable. Il cherchait toujours la faute, toujours à tomber. Il était nulle part. Et donc, quand tu sais que tu as la concurrence d'un Zvetkovic et d'un Bertacini qui peuvent jouer à gauche, bah c'est très compliqué pour lui.
Non, Anderlecht, si vous êtes très honnête, c'est mauvais. C'est pas bon. C'est juste que la différence se fait sur le banc. Mais quand tu vois les ailiers, c'est vraiment
c'est
très
terrible,
problématique.
Hein. La force des individualités par rapport au collectif proposé. Des fois, tu dis, tu peux faire une bouillie, mais si t'as toujours un mec qui te sort de la merde, t'es tranquille, quoi.
Ah, même en défense, j'aime plutôt bien le défenseur Diarra, mais il fait quand même pas mal d'erreurs individuelles qui posent problème. C'était quoi sur l'occasion de Raman, je pense, ouais, qui fait une mauvaise passe et que Kana n'arrive pas à gérer le ballon non plus. Du coup, Raman, il part vers le but. Certes, il rate, mais ça aurait pu être but pour Anderlecht. Donc, les erreurs individuelles.
Ça doit être frustrant. Ouais. Quand t'es une petite équipe comme ça, notamment parfois comme OHL, tu proposes un jeu qui est fondamentalement meilleur. T'as un vrai plan. Tu sens que, allez, tu proposes quand même un football qui est un petit peu plus cohérent, chatoyant, structuré, homogène que celui de ton adversaire. Et ton adversaire qui est un cran au-dessus de toi d'un point de vue individualité fait la différence sur un coup d'éclat, un exploit. Tu sors du terrain, t'as envie de manger ton coussin, quoi.
Mais tu le sais avant le match, en fait. Tu le sais. On a des théories avant le match, on a des vidéos. Donc, on sait, ouais, ce joueur-là, attention, individuellement, c'est très fort. Bah, comme Habib, ouais, au standard, il peut faire la différence sur un ou deux coups d'éclat, il peut faire la différence. Tu le sais avant le match. Faut pas, tu sais, ouais. Je veux dire, on le sait bien, il faut faire attention. Par exemple, les infiltrations, quand il y a un joueur qui est fort à l'infiltration, attention à Van Aken, attention à la vitesse de Forbes, très solide tout le temps, premier poteau. Tu le sais, toutes ces choses-là, tu les sais avant les matchs. Et quand, en plus, tu perds là-dessus, là, t'as la boule au ventre. C'est comme quand on joue contre Anvers. Faut bien suivre Janssen, suivez-le, parce que c'est lui qui décroche, il change, et après, t'as les attaquants qui plongent, et qui, souvent, leur goal. Mm-hmm. On sait le pourcentage de goal qui marque sur corner, sur transition, surtout. On le sait, en fait. Donc, on est préparé à tout ça.
Et cette saison, c'est qui le joueur qui t'a le plus impressionné quand il t'a joué?
Alors, moi, je vais dire, c'est le petit
Garrett Sass.
Oh là là. Le premier match qu'on fait là-bas, gang. J'avais jamais vu ça.
Ah ouais.
Oh, le mec, il perd pas un ballon. Il avait mis un goal et deux assists, je pense.
Il a pas encore marqué cette saison en Pro League.
Non, il a pas marqué. Ok, il avait fait peut-être deux assists alors.
Mais, il enchaîne les passes décisives à mort.
Incroyable. Ouais. Oh là là.
Très technique.
Et par contre, on a joué à deux semaines contre lui. C'était peut-être son cousin qui jouait à ce moment-là, mais le match qu'on avait fait contre eux là, wow, j'avais dit franchement, ce petit-là, très très impressionnant.
Et en homme sur toi, en tant qu'un pur attaquant, en pur neuf.
Ouais, parce que j'allais te poser la question sur Bertacini, en fait, tu vois. Parce que les prises d'appui de Bertacini sur l'explosivité, pour un joueur comme toi, il te chatouille les chevilles, tu vois.
Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que moi, je suis pas explosif?
Non!
Ça voulait dire ça?
Mais non! Okay. Je veux dire, à un moment donné, tu vois le bulldozer que c'est. Le mec, c'est un Rottweiler, quoi, tu vois. Ça doit être difficile à jouer dans son profil, petit format, roquet, crapu.
Mais, tu vois, Bertacini, il a pas joué titulaire contre nous. Donc, j'ai pas, tu vois, si c'est 10 minutes, c'est pas assez.
Ça compte pas.
Non, oui, je veux dire, c'est pas, mais j'avais joué, attaquant de Bruges, mais m'avait pas impressionné tant que ça. Ferry est pas mal.
Ouais.
C'est un peu sous-côté, ouais. Parce que franchement, c'est un costaud, grand.
Il y a beaucoup d'occasions.
Parce que... puissant. Oui, mais le jour, il va te les mettre tout le temps dedans. Il va plus être longtemps à Westerlo. Mais je pense que vraiment puissant, il va très vite, bon de la tête, techniquement bon, dans les remises. C'est dur à jouer des sortes d'attaquants, parce qu'il peut prendre profondeur, il peut décrocher. Parce que normalement, un attaquant, c'est soit il prend la profondeur, soit il décroche. Regarde, les attaquants rapides, ils font tout le temps la profondeur. Donc, tu sais anticiper leur déplacement, même s'ils vont très vite. Et un qui décroche, comme Janssen, si tu le colles tout le temps dans les fesses, je veux dire, tu es là, toi. Tu sais bien qu'il va pas se retourner, il va faire appel contre appel et repartir 20 mètres. Moi, c'est un attaquant qui fait ça, appel et qui repart à 20 mètres, il faut que je le suive, tu vois. Donc, pour ça, c'est plus dur. Mais ouais, je vais dire Ferry, qui est un peu sous-côté. C'est facile de dire les grands noms, mais pour moi, c'est lui, oui.
Ouais, c'est l'attaquant qui rate le plus d'occasions dans notre championnat. Mais je suis...
Non,
mais
c'est bien, vrai.
C'est excellent.
Mais c'est parce qu'il s'en en procure. Il est devant le but, donc il rate beaucoup, mais il y a quand même beaucoup d'occasions. Moi, je me souviens, les supporters de Courtrai, parce qu'il était à Courtrai la saison dernière, ils disaient, qu'est-ce qu'il fout là? S'il est nul, ici, il est là. Moi, je trouvais vraiment que c'était un bon attaquant. Il gagne beaucoup de duels. C'est très important. Et à Westerlo, pardon, il prouve qu'il a vraiment des qualités. Et il est encore jeune. Donc, je pense qu'il a 20 ans. Donc, il a encore une marge de progression.
Par contre, un mec comme Goto qui marque beaucoup, mais dans le jeu, il est presque invisible, tu vois. Mais dans le box, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on demande à ton attaquant? C'est normal, c'est de marquer. Mais si tu veux faire du jeu aussi, tu as besoin d'un mec qui participe au jeu.
Et donc, j'ai envie de dire, tu as joué en Italie, il y en avait un qui était invisible mais qui marquait tout le temps, il s'appelait Pippo Inzaghi. Hein.
Exact. Oui, mais maintenant,
tu as aussi des attaquants comme ça qui sont difficiles. Après, moi, j'ai revu des buts de la Coupe du Monde 2006. Tu te dis où sont les défenseurs, où est le placement, la vitesse de l'attaquant est inédite. Je veux dire, en 20 ans, on a changé de football, quoi. C'est vrai, là-dessus, tu as totalement raison. Ouais. Vaut mieux en ce moment un attaquant qui a beaucoup d'occasions, s'en crée énormément et rate aussi beaucoup, plutôt qu'un qui à un moment donné est complètement invisible.
Regarde, Goto ne marque plus.
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est vrai, pour le moment,
Et ils en ont besoin pourtant.
Oui, donc c'est un peu paradoxal, mais c'est difficile à dire. Parce qu'avant, tu as besoin quoi? D'un grand pointe, grand costaud, qui est bon dans le box de la tête, mais c'est une équipe qui joue en contre-attaque, ça ne te sert à rien. Ça dépend de ton style de jeu, de ton système.
Ouais, c'est clair. On va parler maintenant forcément du match de la semaine avec la grande victoire de l'Union Saint-Gilloise et j'ai même pas commencé à parler que Thomas est déjà en train de nous faire des signes en mode « Hey, je vous l'avais dit, les gars ! Hey, les gars, je vous l'avais dit, les gars ! » Il est tellement, tellement heureux. Petite statistique incroyable concernant l'Union Saint-Gilloise contre le club de Bruges. Ils ont concédé seulement 0,5, 0,6 et 0,7 XG expected goals. L'Union Saint-Gilloise donc contre le club de Bruges dans les trois derniers matchs qu'ils ont affrontés, alors que le club de Bruges est l'équipe qui tire le plus en moyenne au championnat en Belgique et celle qui se procure le plus d'occasions également avec les plus grands expected goals du championnat. Je pense que là, on a vraiment compris qui aujourd'hui était devenu le favori, Thomas.
Ah mais oui, mais clairement, c'est logique. Et là, ce que tu viens de dire, ça confirme ce que je dis à chaque fois quand je parle de l'Union, c'est vraiment leur trio défensif. C'est incroyable, c'est vraiment, je pense que c'est un des meilleurs trios qu'on a vu dans les 10 dernières années de notre championnat. Je trouve que c'est vraiment très solide, très complémentaire. Moi, je trouve ça vraiment même très beau à voir. C'est étonnant parce qu'on est toujours fan du football offensif, on garde toujours les attaquants, les milieux, les assists et ça, mais il faut une fois vraiment se concentrer sur ces trois défenseurs. C'est super beau à regarder, moi j'adore les voir jouer.
Voilà, il devient italien, il devient Catenaccio.
Non mais c'est vraiment trois vraiment très bons défenseurs et tous les trois différents.
Thomas adorait l'attaque l'année dernière, maintenant il devient un amoureux de la défense.
Ah ouais, mais
il change.
Ils jouent tellement bien ensemble parce qu'il n'y a jamais d'écart entre eux. Et t'as McAllister qui est un peu un taureau, un pitbull, et qui attaque tout ce qu'il y a devant lui. Et t'as Burgess qui décale vraiment bien. Et je l'avais regardé quand j'étais voir le match Inter Milan contre l'Union, c'était impressionnant.
Ah, t'as eu des places?
Oui.
Ah, t'en as donné
non, finalement. Non, c'était pas de.
Oh, c'était pas de David.
C'était pas de David. Je pense qu'il a oublié mon numéro de téléphone. Non, c'était pas David. Mais oui, mais c'était vraiment très complémentaire. Ils bougent tout le temps en bloc et donc c'est difficile à leur prendre un défaut. Il y en a un qui. Comment? T'en passes un, il y en a encore les deux autres qui sont là et puis offensivement ils marquent tout le temps.
C'est ça.
Bon. Je sais pas si on. À 3, ils ont combien de buts? Tous les 3.
Je sais pas, mais en tout cas.
Une dizaine de buts
moi,
à 3.
Quand j'en ai parlé, Sykes et Burgess et même McAllister, ils marquent beaucoup. Mm-hmm. Et je pense que toi t'as connu une période aussi où tu marquais beaucoup de buts sur corner. À Moncron, je me souviens, t'avais mis 7-8 buts. Et c'est une force en tant que défenseur,
je pense.
Mais les jeux aériens, c'est surtout en Belgique vraiment un très 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 gros atout. Et puis même en Europe, d'une manière générale, ça devient véritablement, je dirais, une clé pour gagner un match. Hein. Regardez comment on appelle Arsenal aujourd'hui, corner FC. Donc
paradoxe ce week-end, c'est le club de Bruges qui a marqué sur corner.
Et paradoxe ce week-end, voilà, le football est fait d'exception pour confirmer les règles, hein, cher ami. Non, mais c'est intéressant parce que toi, t'as vécu aussi parfois des matchs où tu jouais le haut de tableau, tu jouais contre des grosses équipes, etc. Est-ce que tu penses que dans cette circonstance-là, après cette victoire obtenue, l'Union maintenant contre le club de Bruges, ils vont plus lâcher? Il y a des victoires qui sont fondatrices de quelque chose?
Ah ouais, mentalement, ils ont pris, pris le dessus sur Bruges. Et puis, on voit la déclaration de Leko aussi qui dit ah, mentalement, ça va être dur de s'y remettre, on va travailler le mental. Si ton coach dit déjà ça, ça veut dire que lui aussi est vraiment touché. Et si le leader est touché du bateau, le commandant de bateau est touché, je peux dire que l'équipe, elle est aussi touchée. Après. Et puis, je pense que, l'Union mérite. Et promis David, ce n'est pas encore là.
Il sera sûrement pas là pour la fin des playoffs.
Ils ont perdu leur meilleur joueur.
Hein, mais je leur posais la question, tu sais, il y a quelques semaines. Bon, toi, tu n'étais pas là, mais je leur demandais est-ce que ça va être fondamentalement ça qui va changer la lutte pour le titre? Et ils n'étaient pas nécessairement unanimes.
Tu sais ce qu'on t'a répondu? Moi, je me souviens ce que j'ai répondu. On a dit non, parce que le nombre d'attaquants qu'ils ont dans leur effectif, et c'est tous des attaquants différents, avec des styles différents, et ça marche aujourd'hui, regarde. Mmh. Moi, j'ai vu, enfin, je pense que t'allais poser la question, mais je vais répondre à ta question avant que tu la poses.
Ahead,
mais je sais que t'allais demander quel joueur t'as le plus impressionné. Pour moi, c'était Rodriguez dans cette rencontre. Il a été monstrueux. Je suis pas fan du joueur de base. Pour moi, c'est l'attaquant avec le moins de qualité dans le noyau. Mais quel match qu'il a fait contre Bruges. C'était impressionnant. J'ai jamais vu ça.
Mais t'as besoin de ce type de joueur. Lui, à mon avis, il a déjà été chercher son ticket pour la Coupe du Monde avec l'Équateur.
Franchement, il a été vraiment, mais même dans le jeu, dans ses prises d'initiative, dans la prise de risque aussi, il a vraiment été phénoménal.
C'est un joueur qui a mis un an et demi vraiment à s'adapter. Mais il est arrivé en 2024.
C'est aussi avec des pics. Il peut être très bon pendant un moment, après il redescend, il se blesse, il revient au niveau, il se reblesse, tu vois. Il n'a pas encore connu vraiment des moments forts, mais sur le long terme, comme par exemple David a eu la saison dernière lors des playoffs. Ça, il n'a pas encore connu. Peut-être que maintenant, c'était le moment déclencheur pour que il continue à jouer de cette manière-là.
Mais plus encore, et moi je vais abonder en ton sens, ce qui m'impressionne le plus dans l'Union Saint-Gilloise, c'est la diversité des buteurs.
Oui.
C'est la polyvalence. C'est qu'aujourd'hui, le danger peut venir de n'importe où. Anan Kalaili peut très bien faire une rencontre exceptionnelle, être buteur et passeur décisif. Il peut très bien rentrer dans sa rencontre de manière un peu plus feutrée et laisser la place à un Biondi qui s'est montré encore une fois très brillant dans le match contre Bruges, Zenelli. Enfin, je veux dire, il y a vraiment aujourd'hui le danger vient de partout à l'Union, quand même.
Ouais, c'est clairement ça. Ça peut venir de partout. Ça peut venir, comme tu l'as dit, de Kalaïda à droite. Ça peut venir de Guilherme Smith, comme on l'a vu récemment, qui fait la différence tout seul à gauche. Ça peut venir des défenseurs avec un McAllister, des fois, qui se retrouve, on sait même pas sur une phase arrêtée, hein. Sur une action offensive, le gars se retrouve dans le petit rectangle ou dans le rectangle. Il est là, puis des défenseurs sur corner. Puis il y a Rodriguez, il y a Biondic, il y a Zenelli, qui est revenu de blessure à temps. Donc ouais, c'est ça. Ils ont pas un joueur qui est le meilleur buteur du championnat. Mais quand on regarde les buts, il marque pas mal et défensivement, ils sont très costauds. Et moi, surtout, il y a une stat qui est hallucinante pour l'Union. Ça fait 2 ans qu'ils sont invaincus en playoff. Donc, ça fait 2 ans, ils jouent tout le temps les playoffs 1 contre les meilleures équipes. Et ça fait 2 ans, ça fait depuis 21 avril 2024 qu'ils sont invaincus. Donc, c'est quand même affolant de se dire, à chaque fois, tu joues 10 matchs à chaque fois contre les plus grosses équipes et tu perds jamais. C'est fort.
Bah, j'allais te poser la question justement, mais tu as répondu de ce qui vraiment va faire la différence entre l'Union et Bruges dans le reste du championnat, c'est ça? Alors c'est l'expérience.
C'est à leur avantage, c'est ça. Mais ici cette saison, ce qui m'a un peu fait craindre pour eux, c'est les matchs à l'extérieur. Donc ici, ils vont jouer ce week-end à Anderlecht, qui va être très important, et puis ils devront jouer la même semaine, 3-4 jours après la finale de la Coupe, ils devront aller jouer à Bruges. Et donc pour moi, ça va être vraiment ces deux matchs-là qui vont être les plus importants, parce qu'à l'extérieur, ils ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de points qu'à domicile en phase classique. Mais bon, quand on regarde dans les grands matchs, ils sont présents, ils sont
invaincus. C'est le doublé pour l'Union, c'est sûr. La Coupe et le championnat, ce sera... Mais non, mais c'est
doublé pas... pour l'Union, c'est sûr. Vous l'avez entendu. Thomas l'a dit, l'Union fait le doublé.
Limite, la Coupe, je suis certain à 100%. Le championnat, il y a encore un...
Il est en train de se marier à mort.
Non.
Il est dessus.
Ils sont favoris dans les deux.
Non, mais je pense qu'il y a son maillot en dessous, là.
Non, il n'y a qu'un maillot que j'ai en dessous, c'est celui de Moucron.
Ah, voilà. Le pied du Seine.
Non, j'avais Benson, j'avais buté, mais jamais eu du Seine. Mais c'était un de mes favoris aussi. Mais je ne peux pas avoir tous les maillots.
Donc, qui disait.
Donc, du coup, non, pour moi, la Coupe, c'est certain, contre un Anderlecht, pas au niveau pour moi, même si, bon, ils prennent les résultats, ils font de belles choses par moment. Mais ce n'est pas assez pour battre cette Union aujourd'hui. Là, le titre, il y avait encore un doute par rapport au match qu'on vient de voir ce week-end. Mais là, maintenant, pour moi, il n'y a plus de doute, c'est le doublé pour eux.
Il y a encore 21 points à prendre.
Ça
peut aller très vite, mais...
Ils ont pris le dessus
mentalement. Psychologiquement, c'est sûr, je suis tout à fait d'accord.
Quand tu vois le visage, vous en parliez de Leko durant cette rencontre et après le coup de sifflet final, ça en dit long.
Après, c'est le choix de mettre meilleur aussi.
Après, il faut aussi souligner le fait que Van Aken n'était pas là, à moitié. qui a Sabeu qui est très soldi, Sabeu qui est blessé, Mignolet pas présent non plus, Onyedika qui se blesse pendant la rencontre. Donc il y a quand même aussi des circonstances qui font que le club de Bruges n'a pas eu beaucoup de chance ces dernières semaines aussi. Donc
mais ça, t'es inquiet pour le club de Bruges là sur la fin de saison?
Inquiet, oui, ça c'est sûr, certain, surtout avec les blessures qui sont là, ça va être très compliqué pour eux de gérer la suite, ça c'est sûr.
Est-ce que, je me suis posé la question pendant le match. Tu peux me dire aussi avec ton expérience, Noé, ce que t'en penses. Est-ce que le club de Bruges n'a pas pris un peu l'union de haut dans ce match? Est-ce qu'ils sont pas arrivés plein de certitudes, fondamentalement, avec la volonté de dire, nous, de toute façon, à un moment donné, c'est le type de match qu'on gagne, on est plus fort, on est le club de Bruges, même si on est à l'extérieur, on va faire la diff.
Avec Van Aken, oui. Mm. Mais je pense que sans Van Aken, c'est quand même le capitaine. Ça fait maintenant 10 ans qu'il est là. Ils ratent pas un match et ici ils ont plus leur capitaine. J'ai l'impression qu'ils sont perdus quoi.
Ok.
Ils sont perdus. C'est le clé, c'est le meneur d'hommes, celui qui marque, qui fait les assists, qui fait tout. Et quand il est pas là, ben on voit que c'est compliqué.
En fait, les jeunes ont besoin de lui pour se repérer sur le terrain.
Ouais, bien sûr.
Mm-hmm.
Ouais.
Tu le sens, c'est un point d'ancrage.
Oui, on le sent. Et nous aussi, dans nos meetings d'avant match, le point clé, c'est Van Aken. Suivre-le à la culotte tout le long du match, c'est lui qui fait tout. Bien sûr, ouais, c'est lui qui fait. Oui, il faut pas avoir peur de le dire. Il faut s'arrêter. Il est là aussi, donc. Mm-hmm. Non, c'est l'homme clé de Bruges, c'est Van Aken. Depuis 10 ans.
Oui, oui.
Mais il faut qu'ils essayent de le remplacer parce qu'il va pas être. Mais bon, c'est dur à remplacer Van Aken. Hein.
Mais justement, je l'ai trouvé un peu moins impressionnant cette saison. Et du coup, tu sens, comme tu le disais, je trouve que Bruges est vraiment dépendant. Mais ça, c'est pas quelque chose de nouveau que je raconte. Hein. Mais tu sens que. Un Bruges avec ou sans Van Aken, c'est un monde différent, quoi. C'est pas la même chose.
Quentin, toi, tu voyais plutôt le club de Bruges champion, mm-hmm. contrairement à Thomas qui lui annonçait l'union. Mm-hmm. Est-ce que tu révises ton jugement? Est-ce que tu vois toujours le club de Bruges champion?
Et pourquoi?
C'est pas fini. Il y a que 4 points d'écart. Et pour moi, je l'ai dit, ça dépendra aussi de ce que l'union ira faire à Anderlecht. Ça reste un derby bruxellois. Anderlecht à la maison, à un moment, ils vont devoir aussi jouer les demi-temps à fond. Il y a aussi, pour moi, ce qui va jouer énormément, c'est que s'ils perdent des points là et que Bruges continue, il y aura moins de 3 points d'écart et Bruges joue à domicile 3 jours après que l'Union ait joué la finale de la Coupe contre Anderlecht où ils vont utiliser énormément d'énergie, potentiellement faire une fête célébrée ou autre s'ils le gagnent. Mais Bruges va jouer à la maison contre cette Union là et donc ça sera le match décisif et tout dépendra de l'Union s'ils perdent des plumes avant ou pas.
Tu ne les enterres pas non plus, Noé. Le club de Bruges peut faire cette remontada contre l'Union ou tu vois vraiment l'Union aller chercher le titre?
L'Union, c'est un bulldozer, mais Bruges, ça reste Bruges. Hein. Faut pas l'oublier. Je pense qu'il va y avoir des meetings, ils vont se remotiver, ils vont revenir. Les grandes équipes, elles meurent jamais. Et à 21 points, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est énorme. Et donc,
cette match, c'est énorme.
Donc, écoute, je pense que ça va être beau jusqu'à la fin. Ça va être. Il y a pas une équipe qui tire l'autre et c'est facile, non? Ils vont s'accrocher. Et j'espère pour l'Union, parce que l'Union, c'est beau tout ce qu'ils font. Mais si c'est Bruges qui revient, ce sera aussi mérité, parce qu'ils reviennent de loin.
Thomas, le mot de la fin.
Il y a des derbys bruxellois, mais il y a aussi des derbys des Flandres. Hein. Du côté des playoffs, il y a Gand aussi. Donc la Gantoise ne voudra pas laisser passer
ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les autres soient des victimes, arrivent en victime consentante. Il y aura des arbitres dans cette quête qui vont à un moment donné aller gratter des points. Là, on ne sait pas.
T'imagines, c'est 2 points perdus. Hein. Ouais.
Regarde la rencontre du week-end d'avant face à Saint-Tron. Pour moi, Saint-Tron aurait au minimum dû prendre un point, parce que j'ai trouvé un peu meilleur dans le jeu face à Bruges. Mm-hmm. Ils ont eu un peu de chance, Bruges. Donc, tu sens que Bruges est en train de regresser et que ça va jouer en leur défaveur.
Comme des fois où l'Union, c'est un petit but en fin de match et tout. Il y a ici le but de Zenelis en fin de match. On a eu le but une fois de Guillaume Smith en fin de match sur un centre que personne ne la touche. Il gagne que 1-0. Ça va se jouer à des détails.
La chance du champion.
Voilà.
T'as deux fans différents ici. Hein.
Ouais, très. Bruges. C'est objectif. En plus, c'est même pas leur club préféré. Donc, t'imagines. Mais ils ont des prix partis bien clairs. Ah, tu vois, il y en a un qui veut vraiment, pour des raisons bien particulières, Bruges, et l'autre pour
l'Union. C'est pas que je veux pas, c'est juste mon avis.
C'est pas que je veux Bruges, objectif, pas du tout.
Non, mais c'est intéressant de voir effectivement deux visions complètement différentes. D'ailleurs, peut-être qu'on va avoir deux visions complètement différentes sur l'instant diable. Et ça, c'est important. C'est maintenant qu'on en parle. L'instant diable, suite à la rencontre, forcément, entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, il y a un homme qui a particulièrement brillé dans le milieu de terrain des Gaunes, c'est Aurel Mangala. Aurel Mangala a été fantastique au Parc des Princes. Il a réalisé une très très grosse rencontre face quand même à des joueurs comme Vitinha, Lucas Beraldo et notamment Seni Mayulu. Il a été impeccable. Est-ce qu'il peut être la surprise de Rudy Garcia? Parce que mon prix parti aujourd'hui, c'est de vous dire que pour moi, ça y est, il revient dans la discussion pour être dans la sélection. N'oubliez pas qu'il y a une bataille dans ce milieu de terrain avec Nicolas Raskin, avec Charles Van Hout, avec Mandela Keita. Dans ces quatre-là, ça va se jouer à rien du tout, Quentin.
Raskin, il sera appelé d'office parce qu'il a confirmé ici, justement, en équipe nationale, sous Rudy Garcia, avec des bonnes performances. Donc, j'ai aucun doute là-dessus. Après, on a Yuri Tillemans, mais ça reste Yuri Tillemans qui sera appelé. Onana, mais ils ont ce duo à Aston Villa. Et on a Kevin De Bruyne, on sait déjà qu'il y a les quatre milieux-là qui vont tourner pour les trois places. Après, oui, comme tu le dis, il reste une place vacante. Mandela Keita, il n'a pas été appelé, donc je pense pas qu'il sera appelé ici. Charles Van Aert, ben Nice, c'est compliqué, donc je pense qu'il sera pas non plus appelé. Donc ici en fin de saison, ben oui, maintenant il revient de blessure, il a fait un bon match, là il va devoir confirmer et ne pas se blesser. Bien sûr,
il n'a pas fait que un bon match. Depuis sa blessure, très honnêtement, ces derniers matchs sont très bons avec Lyon.
Oui, mais ici,
Nicolas Raskin aussi c'est mon pote, Mandela aussi c'est mon pote.
Non mais tu vois, ici il vient à peine de revenir de blessure, c'est mon pote, ça n'a rien à voir. Il vient à peine de revenir de blessure, donc il va voir qu'il continue cette fin de saison, mais oui, clairement. Il va être potentiellement appelé quand on voit les deux autres concurrents qui n'ont, comme je l'ai dit, pas été appelés ou ont été décevants.
Donc tu prendrais qui? Tu prendrais pas Aurel, toi?
Si, je prendrais Aurel Mangala, mais pas de Mandela Keita, pas de Charles Van Aert.
Donc tu prends Aurel dans la sélection pour toi? Il revient comme toi, comme moi, tu penses qu'il revient dans la discussion?
À l'heure actuelle, je dis, tout dépend de ses performances d'ici de fin de saison.
Voilà.
Lyon, je peux pas jouer que sur le match contre le PSG, même s'il a très très bien joué.
Troisième de Ligue 1. Ouais. Troisième de Ligue 1, Lyon qui était.
C'est très serré en Ligue 1.
C'est très très serré, ça peut se jouer effectivement rien du tout. À Marseille, ils sont en train de brûler le stade, donc on les oublie. Mais voilà, il y a quand même une grosse bataille avec Lille, effectivement.
Même pour être champion, hein. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre PSG et Lens pour l'instant. Ouais. Même si bon,
ils ont un match en retard.
Le Paris Saint-Germain a un match en retard, mais effectivement, c'est assez impressionnant. C'est intéressant d'avoir ton avis, Noé, parce que toi, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment eu de débat ou de discussion autour de Noé Dussen chez les Diables Rouges. Mm-hmm. Mais quelle vision tu as justement sur cette sélection?
Moi, j'avais jamais ma place, j'aurais jamais eu ma place. Mais maintenant, je pense que je suis un peu du même avis. Je pense que Nicolas Raskin a très bien performé avec les Diables, il était très bon. Tillemans, oui, ça reste le capitaine, je pense que c'est le capitaine. Il y a une place, oui, qui va se jouer. Keita n'a pas encore été appelé, donc je pense pas qu'il va être appelé. Aurel Mangala est un ancien, il était là depuis plusieurs années. Donc ce serait logique qu'il revienne. Après, comme faut voir son état de forme, comment le coach juge, comment il pourrait l'utiliser. Comment lui est psychologiquement prêt à soit être sur le banc, soit rentrer, ça dépend aussi du joueur. Et j'espère qu'on va faire une bonne Coupe du Monde. Ça va être difficile, ça on va pas se mentir. On n'a plus la génération dorée d'avant, ça il faut se le dire aussi. On a eu de la chance d'avoir cette génération dorée.
Est-ce que t'aimes cette sélection? Est-ce qu'elle te fait kiffer? Est-ce que tu prends du plaisir en regardant les Diables Rouges? Honnêtement.
En fait, le jeu est un peu stéréotypé. Si on donne la balle à Jérémy, et Jérémy, vas-y, fais l'action. Et puis, il y a quelqu'un devant le but qui doit mettre le goal. Un peu, c'est un peu ça. Après, il y a Luke Bakio qui est très bien rentré. Je pense que ça peut être une autre alternative si on a les deux de chaque côté. Luke Bakio qui est très bon. On l'entend pas beaucoup à Benfica, mais en tout cas, avec les Diables, il est
Mourinho n'en veut plus. Hein.
Il est impressionnant.
Il a dit.
Mourinho va peut-être aller au Real.
Il est dans une liste de 4 joueurs qu'il ne veut plus voir, qu'il n'en peut plus apparemment.
Ouais. Ok, mais bon, avec les Diables, je pense qu'il est rentré 2 fois, il a très bien fait. Mais défensivement, le problème, c'est qu'avant, t'avais.
Non, mais ton œil sur la défense, c'est important parce que c'est le nœud de notre problème. On ne fait que débattre sur ce cas-là. La défense chez les Diables Rouges, c'est un problème. T'es défenseur, t'es belge, t'as de l'expérience. Qu'est-ce que tu penses de cette défense? Comment on résout le problème?
Moi, je n'aime pas cracher sur
les... Ah, Eureka, tu es le Fabrizio Buccella, le scientifique de la journée.
Non, j'aime pas cracher sur les joueurs parce qu'ils ont tous des qualités, mais on n'a plus un meneur d'hommes comme on avait derrière avec Kompany, avec Vertonghen, sans oublier Vermaelen, capitaine d'Arsenal à ce moment-là, et Alderweireld. C'est compliqué de les remplacer, les mecs. Hein. Faut pas oublier d'où on vient. C'est vrai que maintenant, le pion essentiel de la défense, c'est Zeno de Bast. Il est encore jeune, il a encore tout à apprendre, il doit encore se muscler, il doit encore se former. Donc, est-ce qu'on est prêt pour la Coupe du Monde? Ça va être compliqué, mais pourquoi pas? Je dis, pourquoi serait de faire la surprise, de se qualifier et de voir où on va, sans se mettre de pression, pas dire, ouais, comme chaque année, on va la gagner, la Coupe du Monde, et on y va, et on est là. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même optique.
Dans le groupe, l'objectif, c'est les quarts de finale. Est-ce que c'est un objectif raisonnable ou pas?
Moi, je l'espère. Je suis supporter de la Belgique. Je suis belge. Je veux. Mais ça va être compliqué. Il y a tellement de belles équipes maintenant.
Vu le format actuel avec les équipes supplémentaires, c'est faisable, je pense.
C'est faisable, Quentin?
Très compliqué.
Merci. Je suis d'accord avec lui. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, quand on voit le niveau actuel de notre équipe nationale, c'est pas du tout pour cracher sur notre équipe nationale que moi, personnellement, j'adore et j'adore regarder et j'adore attendre ces rencontres avec passion, etc. Voilà, moi je vibre encore sur le football de sélection, vous savez très bien que j'adore ça, mais franchement, quand tu vois notre niveau actuel, je dirais quand même des équipes intermédiaires européennes qui ont des qualités collectives et individuelles supérieures à nous.
Mais c'est le
Danemark
compétition...
est supérieur, même la Suède potentiellement est au-dessus.
Le Danemark abuse aussi.
Collectivement, le Danemark a l'expérience d'une demi-finale d'Euro sur ces dernières années. Donc il y a quand même autre chose. Et avec une génération qui est grandissante et qui se développe. C'est la même génération que celle qui a été en demi-finale ou avec quelques détails près, effectivement, mais tu as toujours des éléments importants. Par rapport à 2018, quels sont nos repères aujourd'hui?
Lukaku, De Bruyne et Courtois. C'est quand même trois tauliers de notre équipe nationale qui sont là.
C'est sûr. On est certains. À l'heure actuelle, on est sûr que Lukaku va démarrer.
Mais il fera partie de la sélection. Tu vas quand même pas me dire qu'il va pas faire partie de la sélection. Donc,
faire marabout. Non, il doit être là pour jouer.
On laisse à la maison alors. C'est ça que tu veux?
Ouais, non, je sais pas.
Ah bah voilà.
Ce que je veux dire, c'est que si on a effectivement.
Mais il doit rejouer avec Naples. Et on sait bien, il y a un conflit avec Naples.
Je pense qu'il jouera pas avec Naples d'ici la fin de saison. Et donc,
tu vas le prendre. Tu vas le prendre à la Coupe du Monde, il n'a pas joué pendant 6 mois.
Qu'il va être, ça va être la même chose avec le Qatar où il ne sera pas fit, il va monter à la 80e.
Si on avait d'autres attaquants, ok, mais on n'en a pas. Donc,
Tu ferais quoi, toi, sur le dossier Lukaku?
Je le prends. Je le prends quand même parce que pour le groupe, c'est le leader. C'est pas le capitaine normalement, c'est Tielemans, mais je pense que c'est le leader, c'est lui qui parle, c'est lui qui prend ses responsabilités. Je le prends, mais à voir comment lui il est physiquement, parce que tu ne joues pas pendant 6 mois. C'est tellement
il va se préparer, je pense qu'il va se conditionner.
Oui, mais d'accord, mais il va se préparer ici en Vers, il va aller courir, mais dans le rythme des matchs, c'est pas sûr. Là. Quand tu dois aller au duel avec Van Dijk, il va te bouger dans tous les sens, c'est pas la même chose que si tu t'entraînes tout seul à la salle. Hein.
Tu mettrais qui en neuf?
Une question.
Stassin, Vermaet, il y a de la solution, il y a aussi des faux neufs. Tu peux mettre Jean-Luc Hettelard. Arrête de montrer ta tête. Chaque fois que je dis Vermaet, il dit là.
Il aime pas titulaire à Bruges, vraiment, c'est très solide, qui était pas fit. On l'a encore vu ce week-end. Non, faut arrêter. On peut pas aller dire, je vois la Coupe du Monde. Pour représenter ma nation, c'est Romain Vermaet le titulaire. Oh non, tu peux pas.
Faut trouver un faux neuf.
T'as Openda ou de Hettelard.
D'autant que Noé Dussen l'a mis dans sa poche dernièrement là, lors de OHL Club de Bruges, je disais que c'est facilement joué. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, bon, Openda, il est à vendre, il a joué très peu de matchs en Serie A.
Ouais, je sais bien, mais tu veux mettre qui?
Bah, très honnêtement, moi je tenterais un Lucas Stassin, effectivement.
Aussi, la même. Parce que
c'est quand même le seul joueur en forme à l'heure actuelle, numéro 9.
Même si pour la tête des gens, c'est très compliqué de dire on va mettre un joueur de Ligue 2 titulaire en équipe nationale, c'est très compliqué quand tu passes d'un joueur de Ligue 2 à un Lukaku, qu'on a toujours connu en tant que numéro 9, mais faut être réaliste et voir ce qu'il y a aujourd'hui dans notre sélection, c'est Stassin, il n'y a pas de débat. Que je me souviens, on en a parlé il y a quelques semaines lors du rassemblement, on a dit qui on pourrait appeler en tant qu'attaquant, on a tous dit Stassin, on l'a mis sur le réseau, c'était carnage, on nous a insultés de tous les côtés, mais qui veux-tu mettre d'autre que Stassin dans cette équipe? Il n'y a pas d'autre choix, à mon sens.
Voilà, parfois on est content de ne pas trop avoir l'œil sur les commentaires sur les réseaux.
Je vois tout.
Ça fait toujours plaisir. Mais non, mais c'est vrai que c'est une vraie problématique supplémentaire. Avant, au moins, on avait notre stabilité en disant on a notre numéro 9, on est tranquille, on a nos attaquants, nos joueurs offensifs, on a un petit peu de problème sur cette solution de latéral gauche, mais ça va se résorber, on peut trouver des solutions. Là, on a un problème en défense, on a un problème en numéro 9. La certitude qu'on a, effectivement, c'est ce milieu de terrain qui fonctionne bien, on a Nati Leman, ça peut être pas mal. Les côtés à droite, tu l'as dit, Luke Bakio a été bon sur les derniers matchs, mais forcément, on n'est pas nécessairement sur une garantie à 100%. Et Doku, c'est passe la balle à Doku. Voilà avec quoi on approche clairement cette Coupe du Monde. Avec deux matchs de préparation qui vont devoir servir de matchs limite d'entraînement pour la Coupe du Monde. Quoi. Donc ça pose forcément pas mal de questions, Noël.
Oui, t'as la certitude, t'as Courtois, je pense ça va être Meunier, De Bast, à côté de De Bast, on verra, pourquoi pas Mekele, qui est sur ses meilleures années ici. Arthur Théâtre, peut-être aussi, à gauche, c'est un point d'interrogation.
Le défenseur belge le plus fort à l'heure actuelle, c'est qui? Nathan Ngoy?
Haute face Ça, c'est une blague, pardon.
Ouais, tu peux faire une blague sur Quentin?
Non, moi c'est Ngoy. Hein.
Ngoy.
Ouais, Nathan Ngoy.
Ou De Bast, un des deux.
De Bast, le problème, c'est qu'il n'est pas titulaire indiscutable au Sporting. C'est Diomandé et Ignacio qui jouent. Donc.
Noé, d'accord avec eux? Nathan Ngoy ou pas?
Il fait une très bonne saison en Ligue 1. Ils sont 3e, 4e. Donc, oui, ça pourrait être la bonne surprise. Ouais, effectivement, c'est vrai. Vu comme ça. Non, c'est juste. Je ne suis pas assez, mais vu comme ça, oui, ça peut être. Nathan peut jouer. Nathan, on va jouer avec. Ça va vite. Il faut que ce soit prêt psychologiquement, mais oui, s'il est prêt, je pense qu'il peut jouer. Et qu'il y a quelqu'un à côté de lui.
Plus expérience, pied gauche, tête théâtre. Hein. peut-être faire la charnière ouais. Rengoy.
T'as jamais cru, toi, à une sélection? Ça t'est jamais arrivé de réfléchir en disant je vais peut-être aller dans l'équipe nationale ou penser? Dans ta carrière, t'as jamais été ambitieux à ce point-là?
Si, mais je dois te rappeler les noms qu'il y avait derrière mon état.
Non. Voilà, monsieur hein? Dussène, vous n'avez jamais eu de présélection? Ça ne vous est jamais arrivé?
Si, j'avais eu ma dernière année au standard. J'étais dans le groupe des 65, je pense, tu vois.
Ouais, ok. Super. Écoute, la principale, c'est d'être dedans.
Je pouvais pas. Il y avait trop de bons joueurs à ce moment-là. Moi, c'était Manchester City, c'était Arsenal, c'était Tottenham. Ouais. Et puis, c'était Atlético Madrid. Et tu veux que je mette tout, moi?
Ah, bah écoute.
Non, mais
écoute,
il faut se dire la vérité. Ouais. Au milieu, Nengolan.
Non, au milieu de tous ces défenseurs, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'effectivement,
à ce moment-là, on s'imagine la chance qu'on avait, l'équipe. Quand tu voyais nos joueurs à ce moment-là, l'équipe qu'on avait, c'était incroyable.
T'étais supporter.
C'était incroyable. Ah oui, mais j'étais plusieurs fois, moi, à voir le match avec le drapeau, casquette et tout. Quand t'es tout jeune.
Mais c'est pour cette
tête. Avec des amis, non, c'est clair.
D'où ma question de base de
demander. Parce qu'avec Wilmot, il avait réussi à regrouper cette énergie, ce folklore autour de l'équipe nationale quand il jouait. C'était impressionnant. Hein. Mm-hmm. Non.
Ouais, tous les écrans géants qu'il y avait partout.
Bien sûr, moi sur la place de Mons, je me souviens, sur la place de Mons, j'étais là.
J'adore.
J'imagine bien avec sa petite chope là en train de regarder l'écran géant.
C'est clair, je pense qu'il y a des photos sur mon Instagram, si tu regardes bien, tu regardes.
Excellent. Allez, on va passer maintenant au Football Time Award. Bien sûr, on va vous donner nos joueurs de la semaine, ceux qui nous ont le plus impressionnés. On en a parlé concernant le match brièvement, d'ailleurs toi Noé, tu l'as fait, entre le Standard et Charleroi. Moi j'ai choisi Bernard Nguéné, tout simplement parce que dès son entrée en jeu, il a été directement décisif, un joueur qui monte en puissance dans une position qui n'était pas celle attendue à son arrivée. À la base, on attendait un numéro 9, aujourd'hui c'est plus un joueur de côté qui arrive justement à faire sa différence, etc. Joueur assez explosif, donc voilà, Bernard Nguéné prend mes points. Xavier, qu'est-ce qu'il a choisi Xavier? Il a choisi Zakaria Elouadi. Zakaria Elouadi, mérité, joueur encore une fois auteur d'un très très beau but, exploit individuel. Ça va partir cet été direction l'Angleterre à mon avis, ou l'Allemagne sans trop de problèmes. Wolfsburg, s'ils se maintiennent, et Crystal Palace sont d'ores et déjà intéressés. Et Quentin, tu as choisi
Kalaili.
Kalaili.
Ouais, auteur de deux passes décisives, il est incroyable. J'aime bien par rapport à Guillaume Smith, pardon, qui est plus offensif. Lui, il est vraiment un travail défensif. Il est très bon de la tête, il est très bon techniquement. Les qualités de passe sont excellentes, donc Kalaili.
Et puis sans vouloir te répéter, Thomas, tu as choisi Kevin Rodriguez.
En effet, même s'il n'a pas marqué, pour moi, c'est pas un critère de fou. Enfin, c'est pas nécessaire pour être meilleur joueur de la semaine pour moi, mais son impact dans le match était très important. Il a marqué, mais c'était tout juste hors jeu. Mais ouais, non, franchement, exceptionnel, rien à dire.
Et on va faire un petit coup d'œil avec toi sur le classement général.
Bah, c'est encore toujours serré. Il y a Elouadi qui commence à grimper, donc intéressant ce qu'il va proposer les semaines qui vont venir, à voir.
Eh oui, ce classement est toujours extrêmement amovible et qui va pouvoir peut-être nous donner différentes surprises. Noé, si tu devais donner tes points, tu as cité pas mal de joueurs dans ce championnat, cette année, ce serait qui?
J'aime bien Elouadi aussi. Ouais. Je le trouve très, très percutant, il ne s'arrête jamais, il a une très bonne complémentarité avec Gareth Cass, avec Eman, si sur eux. C'est un peu ce trio sur le flanc droit là, qui est de Genk, qui est très très fort. Quand lui performe, Genk performe. Ils sont très forts. Dommage que leur saison est un peu décevante. Ils ont passé un gros coup de mou, ils ont eu. Et puis un joueur spécial à sortir de l'Union, c'est difficile parce que l'Union, ils sont tous au même très bons. Ils sont tous. C'est difficile de dire lui a été le meilleur comme avant. On pouvait en sortir un ou deux avec La Poussin. Avec Thomas, oui.
Mais c'est pas nécessairement l'Union. Tout à l'heure, tu nous as parlé en coulisses d'un défenseur central du Royal Antwerp Football Club, le japonais qui t'a impressionné.
Oui, ici vraiment. Un top joueur, je ne connaissais pas du tout, parce que c'est vrai que...
Comment c'est le nom?
Tsunashima,
exactement. Tsunashima, ok. Impressionnant, 25 ans, j'ai regardé tout à l'heure, 25 ans, donc encore très jeune. Je pense qu'il ne va pas faire de vieux non plus ici à Jupiler Pro League. Je pense que ça, c'est direction l'Allemagne, mais c'est vraiment très très fort, c'est dur sur l'homme, c'est propre. Infiltration, il n'a pas peur, il prend les commandes derrière, il guide un peu Zeno de Basque. Normalement, ça doit être lui le leader de la défense, ça fait déjà quelques années qu'il est là. Mais je l'ai senti vraiment très serein, très fort. Donc non, je pense que ça, c'est un tout bon défenseur.
Et moi, je connais un autre de tout bon défenseur, c'est Noé Dussène. Voilà.
Merci bien.
Merci, bien sûr, de cette émission. Merci beaucoup d'être venu
dans le
Football Time. Ça fait super plaisir. On te souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et sache que tu es le bienvenu quand tu veux ici. Tu es à la maison. Tu t'es un peu écharpé, amusé avec nos copains. Tu reviens quand tu veux pour venir un peu leur tirer l'oreille si tu entends qu'ils disent des bêtises. Thomas, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Quentin, merci beaucoup. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous liker et à abonner sur cette chaîne. Merci d'être allé au bout. Merci pour votre fidélité. Et dites-le nous, tiens, dans les commentaires, qui est tout simplement le joueur qui vous a le plus impressionné cette semaine. Je lis et comme d'habitude, on réagit tous ensemble. Ciao, ciao, ciao.